7h15, Pierre-Yves, tu nous parles ce matin des logements. Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont libres? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont libres.
La Corpic dit dans le fond, écoutez, 5,6% des logements sont présentement vacants selon un sondage auprès de nos membres et il y a un 4% qui va se libérer en juillet. Bon, évidemment, on sait qu'un taux d'équilibre est environ vers 3%. Donc, on se dit, bon, mon Dieu, le locataire va avoir le choix. Ça, c'est statistiquement. Parce qu'on se dit, bon, oui, il y a eu la baisse d'immigration, ça fait en sorte que les logements dans les gros multilogements qui sont souvent des fois temporaires sont moins occupés. Oui, les enfants qui sont chez leurs parents pour les études ont annulé des baux pour retourner chez leurs parents. Tant qu'à faire des études par Zoom, on va les faire dans le sous-sol de Chambly. Oui, il y a des Airbnb qui se sont pas loués à des touristes et donc on est obligé de les ramener sur le marché. Puis oui, les règles du confinement ont fait réfléchir des gens sur la nécessité d'être près du travail, que les grandes villes sont moins attrayantes parce qu'il y a moins d'activités. Mais, observation, il y a quand même des gens qui quittent Montréal pour vrai. Il y a des gens qui se disent « Moi, je serai jamais propriétaire à Montréal. » Puis mon travail, par exemple, si tu es graphiste ou journaliste ou peu importe, des fois tu peux quitter la proximité du centre-ville.
Mais je regardais ce matin, là, puis on va parler avec le président du syndicat des policiers de Montréal, la fraternité, là, c'est 84% des policiers qui habitent pas Montréal. Ben, mais ils sont pas différents des autres, là.
Mais ben les policiers de Montréal, là, moi, ceux que je connais, qui viennent de Valleyfield, ils restent vraiment plus en banlieue de Valleyfield qu'en banlieue de Montréal. Tu sais, quand tu sais que tu vas prendre ta retraite à 50 ans, ou à 49, ou à 51, puis t'as 42 ans, tu te dis, il me reste 8 ans à voyager. Tu sais, il y a cette logique-là aussi, il te reste pas 20 ans à voyager.
Non, puis les salaires sont évidemment... en fait, les policiers sont bien payés, mm-hmm. mais en même temps, ils sont pas différents des autres qui veulent un terrain, puis qui veulent élever leurs enfants, puis qui... En fait, c'est inaccessible pour la plupart des gens à Montréal. Là. Un jeune policier, devenir propriétaire à Montréal, une première maison, là... Bonne chance.
Oui, mais si tu regardes le salaire du policier, en toute honnêteté, Paul, puis tu regardes...
Il est élevé, je suis pas en train de te dire
non,
que...
Non, mais il atteint le maximum de l'échelle en 7-8 ans. Va dire ça au prof, voir.
Ah non, c'est sûr.
C'est sûr. Et bon, si tu amènes tout ça dans le contexte, les logements, par contre, ça veut pas dire qu'ils sont beaux quand ils sont pas chers. Donc, dans le moment, le propriétaire qui a pas encore eu ce qu'on appelle le reality check du propriétaire, demander cher puis pas trouver de locataire, ben il laisse les logements quand même affichés à des prix élevés. Puis, il y a des facteurs qui empêchent certains logements d'être bas. Par exemple, le propriétaire est récent, donc il ne peut pas baisser les loyers. Le propriétaire était propriétaire d'un condo. Il n'a pas vendu, il l'a mis sur le marché locatif, mais quand il cumule son hypothèque, ses taxes foncières, ses assurances qui augmentent, plus les frais de condo qui augmentent, il n'est pas capable de louer moins cher qu'à un certain prix. Donc, les beaux logements sur le marché, oui, sont disponibles, mais sont souvent chers parce que l'offre et la demande, ce n'est pas encore équilibré. À un moment donné, il y a des propriétaires qui vont être obligés de baisser les prix parce que le locataire, le seul qui voudra louer, va dire « Je vais te le prendre, mais à 1100 au lieu de 1200. » Et c'est des choses comme ça qui vont arriver. Mais c'est sûr que la barrière psychologique est franchie du 1000$.
Ah, ça, c'est sûr. Puis aussi, trouver un logement qui peut abriter ta famille, là. Tu sais, c'est pas juste un 2,5, 3,5. Là. Des fois, tu as besoin d'un 4,5, d'un 5,5, mettons.
D'un 6.
Là. D'un 6. C'est pas simple à trouver nécessairement à un prix qui a de l'allure pour un locataire. Là.
Puis les immeubles avec des logements, avec des grands corridors communs, avec la COVID, deviennent moins attrayants à long terme. Tu te dis, hey, je vais-tu aller dans un haut plex avec un escalier extérieur et un balcon? Ou je vais aller dans un immeuble où tout est fermé, puis quand c'est le temps de la COVID, ça devient plus paniquant? Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte.
Parlons de taux d'intérêt.
Oui, parce que la Fed a dit la semaine passée, la Banque centrale américaine, écoutez, on pensait pas augmenter les taux d'intérêt avant 2024, mais là, on va avoir deux hausses probablement avant la fin 2023. Et 2023, quand j'étais jeune, c'était loin, mais là, c'est rendu proche. Et là, ça influence des gens en se disant, OK, présentement, on vit de l'inflation, mais de l'inflation, c'est certaines fois temporaire. Ou en transition, par exemple, la nourriture, la construction et la restauration vivent des chocs tarifaires parce qu'il y a une pénurie d'approvisionnement temporaire qui fait en sorte que là, il y a un déséquilibre offre-demande. Puis ça augmente l'inflation, mais il y a une portion d'inflation qui semble court terme. L'autre point, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Tu sais que tu as des placements américains souvent à 30% dans un portefeuille équilibré pour être exposé au marché extérieur. Puis là, tu te dis, on sait que le Canada est souvent un suiveur des Américains, c'est-à-dire la Banque centrale canadienne va vouloir suivre éventuellement la politique américaine pour pas créer un écart de taux d'intérêt important puis créer un choc de devises aussi. Et si on continue, qu'est-ce qu'on peut faire comme investisseur? Ben un, c'est sûr qu'il y a des domaines comme l'immobilier, c'est très exposé, très profitable lors de l'inflation. Ton immeuble prend de la valeur, protège contre l'inflation. Donc, ceux qui ont des placements en bourse dans des secteurs immobiliers peuvent se dire, on va peut-être moins profiter du marché immobilier s'il y a une hausse d'inflation ou plutôt un contrôle de l'inflation. D'autres points, c'est que tous les investisseurs spéculatifs court terme qui sont arrivés à cause d'un surplus de monnaie sur les marchés, par exemple, tout ce qui est crypto, investissement dans les meme stocks, hein, les fameux stocks comme AMC et GameStop, ben, ces investisseurs-là, lorsque les taux d'intérêt vont augmenter éventuellement, vont peut-être avoir moins de liquidités. L'autre point, c'est revenir à ce qu'on appelle tout le temps les titres de qualité pour se rebalancer. Parce que là, présentement, il y a un économiste de Moody's qui a dit, écoutez, nous, selon notre historique, notre connaissance, il y a d'habitude, avec les facteurs qu'on voit, on anticipe une potentielle correction qui s'en vient. Il dit, je ne peux pas vous dire dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, mais j'anticipe une correction de 10 à 20. Bon, là, évidemment, c'est pas moi, c'est Mark Zandi qui le dit chez Moody's, mais évidemment, c'est facile de dire qu'il va y avoir une correction de 10 à 20. Il y en a toujours éventuellement des corrections de 10 à 20. Mais ce qu'il dit, lui, c'est que dans le moment, les marchés sont très, très valorisés, très, très chers et, dans le fond, être prêt à ça. Donc, ceux qui sont moins prêts à ça, préparez-vous. On ne sait pas quand, mais on se prépare. Hein, il reste deux jours?
Paul? Ben oui, nous, il reste deux jours, puis probablement que ça va arriver quand on va revenir, gâches-tu?
Hey, puis savais-tu, c'est la première fois peut-être qu'on va partir en vacances, puis les Canadiens vont être encore là.
Ça, c'est un excellent bon point, comme dirait l'autre. Merci, salut, bonne journée. 7h22, Autoroute des Laurentides.